Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Le collaborateur le plus chic de Cube Radio est avec nous, Alexandre Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Salut Benoît.
Toujours impeccable.
T'observes un écart dans mon look quand j'arrive de faire salut bonjour à TVA versus quand je ne fais pas de télé le vendredi.
C'est pas comparable.
Non,
mais
c'est différent.
C'est correct. Non, on fait de la radio. Les gens s'imaginent encore que t'es ultra chic, c'est parfait.
À tous les jours.
Garde ça de même. Bon, bilan COVID du jour. Ah.
Oui. Attends un peu, là. Non, capote pas tout de suite, là.
Okay.
C'est 905 nouvelles contaminations. Ben. On est en dessous de la barre de 1000. On va le prendre. Ça fait du bien. Par contre, les décès, 12 nouveaux décès, malheureusement. Il y aura un point de presse important cet après-midi, là, à 13h. Un point de presse qui va regrouper la vice-première ministre Geneviève Guilbeault avec notamment le maire de Québec, Régis Labeaume, et le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Quand même, ces deux-là sont ensemble,
il faut
que ce
hein?
soit important. On sait que la région de la Capitale-Nationale a été vivement touchée là, par la pandémie. Un peu plus tôt cette semaine, on disait pratiquement que c'était le nouveau point chaud là, au Québec. On a assisté même certaines journées à des cas supérieurs à Québec qu'à Montréal. Je regarde à l'instant là, pour aujourd'hui ce que ça dit pour Québec, 117 nouveaux cas. Comparativement à 237 pour Montréal, la situation qui s'est améliorée, somme toute, là, du côté de Québec. Mais c'est un point de presse qui va être important pour plusieurs raisons. On a vu un peu le ton de M. Legault hier, beaucoup plus préoccupé, hein, tu sais, dans le point de presse de 13h. M. Legault, on sentait que ça pesait lourd là, sur ses épaules. Il y avait toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec les restaurants. Il y a eu la lettre ouverte de plusieurs restaurateurs disant faut rouvrir. Il y en a qui passeront pas au travers. Et ben le fameux défi 28 jours, quand on regarde ça, risque de durer possiblement plus que 28 jours. Alors, dans ce contexte-là, c'est peut-être un peu difficile de rouvrir les restaurants. La question, donc, de Québec sera abordée plus précisément cet après-midi. Et je vais attirer ton attention sur un peu une lumière au bout du tunnel, si tu veux. Il y a l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, qui dit entrevoir finalement une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations dans les prochaines semaines. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les capacités des hôpitaux, les capacités hospitalières, ne devraient pas être dépassées au courant du prochain mois. C'est la prédiction de l'INES dans son rapport là, qui a été dévoilé au cours de la dernière heure.
Mais prochaines semaines, genre prochaines 48 semaines? Ou...
Du prochain mois. On va commencer par le prochain mois. On va commencer par le prochain mois.
Fait qu'après 28 jours, ça va être quoi? 28 semaines?
Ah ben j'espère pas.
C'est dur, tout le monde trouve ça difficile.
Mais c'est vrai que c'est difficile, ça l'est pour notre morale, c'est clair. Pour ce qui est des hospitalisations, puis j'y faisais référence il y a un instant, tu vois, les hospitalisations ont diminué de 13 par rapport à la veille. Alors on est à 540. Pour les soins intensifs, ça a diminué de 2. Et on est passé sous la barre des 100 à 90.
Annuler les soupers là en fin de semaine. Les soupers d'amis, je sais que ça nous tente, nous, on en a là, puis... Annuler ça, là. On donne un dernier coup parce que ça va, tu sais, 900, 1000, 1100, on est toujours dans la même zone. Ouais.
Ben parce que, tu sais, on nous a vendu ça de cette façon-là en disant, OK, là, on fait un effort de 28 jours, on va casser la vague. Mais c'est juste que l'espèce de plateau à 1000 cas dure un petit peu plus longtemps.
Symboliquement,
oui. Ça baisse pas vite.
Ouais.
Fait que c'est sûr quand on regarde ça,
Mais ça, c'est le principe de la prévention. On saura jamais combien de cas on aurait pu avoir si on n'avait pas fait cet effort-là de 28 jours. Tu sais, peut-être on serait à 3000 cas par jour.
Ben peut-être.
On ne sait pas,
on voit ce qui se passe en France. On voit ce qui se passe
ailleurs.
C'est
30 000, hein?
C'est énorme. Là. C'est des records de cas. À chaque jour, il me semble qu'on a l'impression de parler de records de cas du côté de la France.
Ouais.
C'est ce qu'on veut éviter. Ça a été souligné par le premier ministre Legault hier en disant, ce scénario-là, là, on veut vraiment pas aller là.
Bon, moyen de pression de la FIC reporté finalement.
Ouais, ça a été reporté. On sait que en fin de semaine, il devait y avoir samedi et dimanche des moyens de pression. Donc, un refus de faire des heures supplémentaires, un refus de travail forcé. Ça aurait eu des conséquences, peut-être du délestage. Alors là, il y a eu un avis, effectivement, de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ce matin, nous disant que cette action-là, finalement, était annulée. La FIC et son penchant aussi du secteur privé ont dit accepter, en quelque sorte, cette main tendue-là de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. On sait qu'elle a fait une sortie au cours des dernières heures.
Mm-hmm.
Et la déclaration de Mme Lebel sur sa volonté de vouloir régler toute cette surcharge de travail, ben ça semble avoir convaincu les délégués des deux organisations syndicales et finalement ne pas aller de l'avant avec ces moyens de pression-là au cours de la fin de semaine. On sait qu'au cours des derniers jours, les infirmières, les inhalothérapeutes ont lancé des actions coup de poing, hein, en bloquant des ponts, notamment à Québec et sur le pont Jacques-Cartier, plus tôt cette semaine, en faisant ce stunt-là sur la rive sud de Montréal, à Longueuil, devant le CHSLD, avec des espèces de pancartes grandeur nature avec des patients pour dénoncer un peu le ratio que les infirmiers et infirmières sont surchargés dans leur travail. Alors, l'espèce de main tendue de Sonia Lebel fait un peu baisser la pression. Il n'y aura pas d'impact sur le réseau de la santé en fin de semaine, mais Benoît, on va se dire les vraies affaires, là. Le problème est pas réglé. Et il est loin d'être réglé. Mm-hmm. Et il est là et il est présent depuis plusieurs années.
Ouais. Puis Madame Bédard me disait, ce qu'on entend sur la place publique de la part des politiciens, puis ce qu'on entend à la table de négociation, c'est pas la même affaire. Fait que là, faudrait qu'on se coordonne du côté du gouvernement.
Cette espèce d'écart dans le discours, hein, ouais. On a vécu ça dans la première vague aussi, l'écart dans le discours, là, entre ce qui se disait publiquement devant les caméras et ce qui se disait sur le plancher, dans les hôpitaux, ou même derrière des portes closes, dans les négociations, c'est cette cohérence-là dans le discours qui est tellement importante.
On va voir si ça s'améliore au cours de la semaine prochaine. Alexandre, il y a le château aussi qui vient de se mettre à l'abri de ses créanciers. C'est pas une bonne nouvelle?
Non, c'est sûr que sur la scène économique, c'est pas une bonne nouvelle. Puis le château s'ajoute à cette longue liste d'entreprises qui déjà là, tu sais, a souffert des entreprises québécoises, des bannières qu'on connaissait très, très bien, qu'on pensait, tu sais, ne pas se retrouver dans une situation comme ça. Mais finalement, la dernière en liste, effectivement, c'est le détaillant de vêtements québécois, le château, qui a annoncé à son tour qui doit se placer à l'abri des créanciers, tout ça en raison des impacts de la COVID. Et ultimement, ce que le château dit, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que d'entamer ce processus-là, disant que le secteur de la vente au détail fait face à toutes sortes de défis en raison de la pandémie, que la deuxième vague frappe, ça fait mal. Le château, quelle est sa structure? Ben, c'est une entreprise qui emploie quand même 1400 travailleurs, 500 à son siège social de Montréal, 123 magasins exploités au Canada, en plus du site web. Alors, ça va suivre son cours. Quelle est l'avenue que l'entreprise va approuver ou va emprunter pour les prochains mois? Est-ce que c'est une fin définitive? Est-ce qu'on relance d'autres façons? Est-ce qu'on consolide les activités? On verra bien. Mm-hmm. Mais c'est une bien triste nouvelle, une autre triste nouvelle économique, malheureusement, qui frappe cette fois, une entreprise de la mode, un détaillant bien connu.
Non, ça n'en est pas une bonne, c'est clair. Et le palmarès des écoles, j'ai regardé ça ce matin.
Ben oui, as-tu... Quoi tes impressions?
Mes plus vieux sont allés à Saint-Edmond, qui est parmi les bonnes écoles publiques. Mes enfants sont allés à l'école publique.
Bon, ils ont bien viré.
Pas pire. mais bien.
Mais tu fais le comparatif avec l'école publique versus l'école privée. Ce qui ressort vraiment de ce palmarès-là, puis vous allez pouvoir le voir là, dans sa totalité dans l'édition du Journal de Montréal, Journal de Québec en fin de semaine, mais là, on a eu un petit aperçu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas juste des établissements privés qui dominent ce palmarès-là maintenant. Il y a des établissements publics aussi qui trônent au sommet.
Mais 10 sur 10?
Ben, il y en a quelques-uns. Il y en a 6 qui ont 10 sur 10. Il y en a 3 du public, 3 du privé.
Non, mais 10 sur 10, ça veut dire que l'école est parfaite. Moi, je crois pas à ça, là.
Non, c'est l'école parfaite, ça.
Non, mais ça se peut pas, là. Tu sais, qu'à échelle humaine, tu sais, surtout, il y a des écoles, des polyvalentes là-dedans, là. C'est 1000, 2000, élèves. C'est, moi, j'arrête pas de le répéter. J'étais ministre de l'Éducation. C'est la première affaire que je ferais. Je passerais le boule là-dedans, puis je construirais des écoles à échelle humaine. Mm-hmm. Pas plus que 750. C'est en masse, 750.
Ouais. Dans les belles histoires qui ressortent du niveau du réseau public, c'est le Collège Saint-Louis de Montréal, l'École d'éducation internationale de McMasterville, l'École internationale de Montréal aussi à Westmount, qui obtiennent donc cette fameuse cote de 10. Ouais, c'est ça. Alors, c'est sûr que ce sont des écoles, de ce qu'on me racontait ce matin, c'est quand même, ce sont des écoles qui choisissent les étudiants, les élèves. Alors, ça aussi, c'est sûr que ça joue gros dans cette balance-là. Mais cette année, il y a quand même 43 écoles qui ont réussi à améliorer les résultats de leurs élèves de façon significative. Et je veux te parler, et c'est ma fameuse plug pour mon balado.
Vas-y, je t'en prie.
J'ai fait une entrevue avec Karine Dupuis. Karine Dupuis, elle est directrice de l'école Sainte-Anne. C'est à Davelieuville. OK? Son école, c'est l'école publique où les élèves réussissent le mieux parmi les écoles qui accueillent le plus d'élèves en difficulté dans la province.
Wow.
Elle en a à peu près 35%. Et ce qu'elle me disait ce matin, dans l'enregistrement du podcast, c'était service de proximité. Puis pas juste pour les profs, là.
Ouais, ouais.
Le concierge de l'école.
Ouais.
La réceptionniste. Tout ouais. le monde est impliqué. Tout ouais. le monde est impliqué dans le succès du jeune. Le jeune peut se tourner vers chacun des intervenants.
Mm-hmm.
Ils font toute une petite équipe. Ils se serrent les coudes. Je te dis, j'ai vraiment aimé ma rencontre avec Madame Dupuis. Puis je vous invite à écouter ça. C'est une des belles histoires qui ressort de ce palmarès-là, qui fait jaser à chaque année, qui fait jaser pour les notes qui sont attribuées, pour les constats qui ressortent.
Ah, faut les souligner, les réussites.
Ben, c'est important, puis ben oui. plus que jamais, je te dirais. Ouais. Dans un contexte où on a beaucoup parlé du domaine de l'éducation, la rentrée en mode COVID, puis elle me disait, aucun cas, je pense, aucune éclosion, aucun cas dans son école. Tout le monde, là, vraiment, c'est un challenge pour tout le monde. Ils serrent les coudes, ils sont tissés serrés, et ils font de la réussite de leurs élèves vraiment une priorité, et ils sont fiers de ça. Moi, j'ai parlé à une dame qui était extrêmement fière pour le balado. Alors ça fait du bien, c'est important, c'est un palmarès très complet. C'est tout un travail de la part de nos collègues là, du journal. C'est à lire au cours de la fin de semaine. Vraiment très, très, très exhaustif en fin de semaine, encore une fois, en collaboration avec l'Institut Fraser.
Bon, et annonce pour les garderies.
Oui, c'est des milliers de places en garderies non subventionnées qui seront transformées en places à contribution réduite. Donc, c'est un premier appel de projet pour convertir 1750 places non subventionnées en places à tarif unique. Ce sera effectif à l'automne 2021 et en tout et partout, ben ce sera 3500 places qui seront converties d'ici 2 ans. Les garderies privées ont jusqu'au 15 janvier pour déposer une demande de conversion.
Bravo.
Et il y a seulement les services de garde qui ont un permis depuis plus de 5 ans vont être admises à tout ça.
C'est bon. Fait que on ferme les écoles où on endoctrine les enfants de façon religieuse, puis on force les écoles privées à accepter un 20-25% d'élèves qui ont des problèmes, et puis le système éducatif va s'améliorer au Québec.
Encore une fois, Benoît, tu nous illumines tes suggestions.
Ben oui, puis après, je vais prendre ma retraite et rien de tout ça aura été
pas
fait.
Pas tout de suite, Benoît.
Non, on va prendre.
Fais durer le plaisir.
Toi, tu t'en vas à Québec, là?
Je prends pas ma retraite tout de suite.
Non, mais
j'espère. Je m'en vais à Québec.
T'en as-tu te collé à ce point-là?
Je travaille encore pas mal.
je pense que oui.
Je dois avoir encore une trentaine d'années devant moi, j'espère.
Le balado est en ligne à partir de quelle heure?
En fin d'après-midi, aujourd'hui.
C'est quoi les autres sujets?
Ben, en fait, ce point-là est important pour les écoles. Les restaurateurs. Hein? Les restaurateurs, on a eu le cri du cœur cette semaine.
Ouais.
La réaction un peu tiède du premier ministre Legault. Ben, on va voir François Meunier, qui est de l'Association des restaurateurs du Québec. Et on va revenir aussi sur toute la controverse entourant ce fameux mot commençant par la lettre N à l'Université d'Ottawa et tout ce qui en est suivi. Les réactions sur la colline parlementaire, tant du côté d'Ottawa que du côté de Québec. C'est Harold Fortin qui va venir nous parler de ça, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, panéliste à l'ajoute. J'ai toujours aimé le côté posé d'Harold Fortin. Puis il nous raconte son expérience également, des trucs qu'il a vécu personnellement, puis son analyse de ce qui se passe. Alors, c'est ce qu'on aura au menu cette semaine.
Très bien. C'est à écouter sur Cube Radio. Alexandre Dubé, merci.
Salut, Benoît.
À lundi.